L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La parabole du Samaritain ». Nous avons toujours avec nous Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre à cette émission.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter, Jonathan, à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions.
Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces instants que tu nous accordes. Tu es pour nous le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par toi. Laisse, Seigneur, que toi, qui es la parole, tu conduises nos vies, alors que nous sommes sur cette terre, que tu conduises la vie de mon frère Raphaël, la vie de ma sœur et de mes frères qui me suivent là où ils sont, afin qu'ils s'attachent à toi fortement et qu'ils ne ratent pas l'éternité. Bénis ces instants et que la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le remit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan, on retourne au verset 34. « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. » Qu'est-ce que tu peux encore nous dire aujourd'hui sur cette parabole par rapport à l'huile et le vin?
L'huile et le vin. L'huile, nous l'avons vraiment abordée. Et pour mieux le rappeler, l'huile nous enseigne l'esprit. Lorsque le Seigneur veut sauver quelqu'un qui était à Jérusalem et qui descend vers Jéricho, qui se retrouve encerclé par des brigands, la seule chose qu'il donne, les seules choses qu'il utilise pour ramener l'homme, d'abord c'est l'huile. L'huile, c'est l'esprit. L'esprit nous amène à comprendre que le chemin que nous suivons n'est pas bon. Nous avons besoin de l'esprit. Vraiment, quand quelqu'un est lié par les liens de l'iniquité, il a besoin de l'esprit pour que l'esprit le ramène à Jérusalem. La Bible, parlant de l'esprit, dit par exemple que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ainsi, si quelqu'un peut dire que non, je peux pas, je n'arrive pas, je tombe toujours dans ce péché, eh bien l'esprit est mieux placé pour nous ramener dans le bon chemin, pour creuser jusqu'à nous dire, tu vois, voilà ce que tu dois faire. Même si tu étais dans une prison, l'esprit peut nous amener à nous relever et à retourner auprès de Dieu. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de ceux qui combattent les chrétiens et beaucoup de ceux qui souhaitent la mort des chrétiens. En fait, la mort du chrétien, c'est juste que le chrétien se retrouve dans un état de péché. Mais le Seigneur nous aide et il veut que nous puissions rester debout. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en prêchant, disait toujours « Veillez et priez, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. » Dieu donne l'esprit, cet esprit qui est l'huile, qui nous amène à être convaincus que nous avons mal conduit nos vies. Mais ensuite, il donne également le vin qui est l'image du sang de Jésus. Lorsque quelqu'un est convaincu des maux qu'il a eu à pratiquer étant sur terre, il retourne au-dedans de lui, il se répand, c'est-à-dire il pleure ses douleurs, il regrette tout ce qu'il a fait de mal, alors il choisit de se convertir, en fait, de changer de vie. Et il reçoit de Dieu le pardon de péché. Et lorsqu'on parle du vin, on voit le sang de Jésus. Car le sang de Jésus-Christ nous montre que seul Jésus purifie le pécheur, nous purifie et fait que nous soyons purs devant Dieu. À l'image de ce verset de Actes chapitre 13, verset 38, qui nous parle du sang de Jésus et non le sang d'un pasteur ou d'un prophète ou d'un enseignant comme nous le faisons. Non, c'est le sang de Jésus. La Bible dit ceci au verset 38 de Claire, que c'est par lui que le pardon des péchés annoncé par lui. Lui qui? Jésus de Nazareth. Lui seul peut pardonner. Lui seul peut purifier. Lui seul peut rendre pur et juste. Son sang nous purifie de tout péché. Lui seul nous sauve. Ce n'est pas un homme qui sauve. L'homme qu'on appelle Adam, par sa désobéissance, a introduit le péché dans le monde. Mais Jésus-Christ est le dernier Adam qui, lui, nous amène la vie. Si le premier Adam a amené la mort, eh bien le dernier Adam amène la vie. Il vivifie. Romains chapitre 5 nous parle de ces phrases que nous venons de vous présenter. Romains 5, à partir du verset 12, il est long, mais nous le lisons quand même. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Voilà, nous naissons pécheurs. On voit un enfant de 2 ans qui se fâche. En le gronde, il reprend les mêmes bêtises. Pourquoi? Parce qu'il a le sang d'Adam. Et Dieu nous envoie le dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Le verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, c'est-à-dire d'Adam. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Jésus-Christ vient nous justifier après que beaucoup qui l'ont précédé n'ont pu justifier les hommes. Donc, Jésus est le seul qui nous introduit juste, qui nous introduit dans les parvis éternels, qui nous présente comme des hommes saints devant le roi des rois. C'est très important. Je vais encore lire ce texte pour appuyer cette même pensée. De 1 Corinthiens 15, verset 21, la Bible dit ceci. Nous lisons la parole des dieux. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par Adam et la résurrection est venue par Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous nous mourrons par Adam, mais ceux qui se sont attachés à Dieu, ils revivront en Christ. C'est-à-dire, déjà là, ayant cru en Christ, étant vivant, nous sommes vivants devant lui. Mais même s'il arrivait que nous mourions avec ce corps, nous ressusciterons parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'appelle le dernier Adam. Le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, je suis dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu le troisième Adam. Parce qu'une fois j'ai entendu quelqu'un qui prêchait qu'il y avait un troisième Adam. Non, si Jésus-Christ est le dernier Adam, après le dernier, il n'y a pas un troisième.
Il n'y a pas un suivant.
Il n'y a pas un suivant, parce que lui, il est le dernier.
Celui donc, qui clôture.
Que personne ne vous trompe que lui, il est le troisième Adam. Jésus est le premier, je voulais dire Adam est le premier, et Jésus est le dernier Adam. Il est venu pour vivifier, donner la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est-à-dire Adam avait un corps animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite pour dire que Christ est venu après. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Le verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Voilà. Le second homme est du ciel. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le seul qui pouvait purifier ta vie, purifier ma vie, qui peut rendre pur un homme. Parce qu'il n'est pas de ce monde. Il est du ciel, il est l'homme du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Qu'est-ce qu'est l'image du terrestre? Ce corps que nous avons, c'est le corps d'Adam. Le corps du terrestre, c'est-à-dire le corps d'Adam qui était un homme de la terre. Mais si nous nous attachons à Christ, si nous acceptons Jésus-Christ comme nous le disons dans cette émission, venez à Jésus. Si nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, comme Seigneur à lui, malgré les vicissitudes du monde, malgré les tendances de ce corps qui nous amène toujours à vouloir désobéir à Dieu, si nous nous attachons fermement au Seigneur, nous porterons également l'image du céleste. Rappelons-nous encore, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que Christ, quand il est revenu, quand il était ressuscité des morts, je voulais dire, il pouvait entrer dans une maison sans qu'on lui ouvre la porte.
Tout à fait. Hein?
C'est dans le livre de Luc, on dit que toutes les portes étaient fermées. Toutes les portes étaient fermées. Luc chapitre 24. Je lis au verset... Alors, je pense que c'est pas ça. Oui, je vais trouver le texte. Mais dans ce texte, on dit alors que toutes les portes étaient fermées. Lui-même se présenta au milieu d'eux. Voilà. Il se présenta au milieu d'eux. Comment se fait-il que quelqu'un puisse entrer?
Luc 24, verset 36.
Ok, merci.
Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. »
Voilà. Lui-même se présente au milieu d'eux, alors que toutes les portes sont fermées. Il se présente. Donc, le corps qu'il a, c'est le corps que nous aurons aussi. Des corps qui n'auront pas besoin qu'on nous ouvre la porte pour qu'on entre. Non. Ce sont des corps incorruptibles. David n'a pas eu un corps incorruptible. Il a connu la corruption. Son corps a connu la pourriture. Mais Jésus-Christ n'a pas connu la corruption. Il est ressuscité vivant avec son corps. Donc, il est venu pour nous donner la vie, nous vivifier. Nous porterons l'image du céleste. Comment ça se fera? Je ne sais pas. Mais je sais que ça se fera parce que la parole de Dieu le dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Son sang seul nous purifie. Son sang seul peut faire en sorte que nous soyons justes. Ainsi, mettons notre foi au Samaritain. Il est venu pour nous accorder le pardon du péché. J'aime bien quand je lis le livre des Actes des Apôtres, parce que ce livre nous présente le travail du Seigneur au travers de ses serviteurs, les apôtres. Ils étaient utilisés par l'Esprit. L'Esprit accompagnait leur message, tel que lorsqu'il parlait, le Saint-Esprit touchait les cœurs. Ces gens étaient saisis des foi et convaincus que le Seigneur était vrai. Et ensuite, ils étaient devant l'embarras. Et alors, les apôtres leur présentaient le chemin. Donc, croyez en Jésus pour recevoir le pardon des péchés. Croyez en Jésus pour ne pas... que nous présente ce texte, je vais lire ce texte, acte 13, verset 40. Je vais lire ceci. C'est Paul qui dit, « Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. » Ça, c'est Habacuc qui a dit ça. « Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous les racontait. » L'œuvre en question que le Seigneur a manifestée, c'est quoi? Christ est venu sur la terre, il est mort, il est revenu à la vie. Et il justifie les hommes. Alors prenez garde, parce qu'il y a un homme qui vit présentement, qui est en train de justifier les gens. Si vous ne prenez pas garde, vous risquez de rater cette opportunité.
C'est-à-dire, une grâce.
L'homme qui justifie est là, et vous serez là en train de dire non, c'est pas lui. Vous n'allez pas croire si on vous raconte. En fait, il le disait à des juifs. Il leur disait, il y a un homme qui justifie. Vous devez croire en lui. Sinon, si vous ne croyez pas, vous serez conforme à la prophétie de Habacuc chapitre 1 verset 5 où Habacuc a dit en ces jours-là, vous allez ne pas croire quand on va vous raconter des choses. Vous allez dire non, c'est pas lui qui justifie. Oui, seul Jésus justifie. Seul Jésus rend pur. Aucun homme ne rend pur. Que personne ne nous trompe. Seul son sang nous rend pur. Seul son sang nous sanctifie et fait que nous soyons justes devant le roi des rois. Psaume 51 verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Regardez comment David s'exclame, montrant la faiblesse de l'homme, montrant que l'homme ne peut pas justifier, montrant que l'homme ne peut pas sauver, faire en sorte que l'homme soit saint, soit juste devant Dieu. Psaume 51, verset 7. David dit ceci. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous sommes nés dans l'iniquité, donc l'homme ne peut pas sauver son frère. Personne. Mais Jésus l'a fait, parce qu'il est l'homme du ciel. Il est l'homme qui sauve, l'homme qui purifie, l'homme qui rend pur. Croyons en Jésus pour obtenir de lui le pardon du péché. Croyons en Jésus pour retourner à Jérusalem, pour retourner dans la présence des dieux. Il est très important. Marc chapitre 3, verset 20. La Bible nous dit ceci, nous parle des parents de Jésus. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Jésus, il était dans un endroit envahi par des gens parce que les gens le suivaient, au point qu'il avait du mal à prendre ses repas. Les parents de Jésus, ici on parle de Joseph et de Marie, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. C'est-à-dire, et Marie et Joseph, apprenant que Jésus, au lieu de dire aux gens, attendez que je prenne mon repas, il se laisse envahir par des gens, alors les parents de Jésus disent, non mais ce Jésus, il est devenu hors de sens. Est-ce que, bon peut-être, Joseph pouvait dire ça, mais est-ce que Marie pouvait vraiment dire ça? Dans le vrai sens, Marie ne pouvait jamais dire ça, parce que Marie a rencontré un ange. Oui, mais quel ange? Même l'ange Joseph, Gabriel.
Joseph lui aussi, il a vu en songe.
Un ange! Mais ils sont parvenus à oublier toutes ces choses et à dire Jésus est hors des sens. Pourquoi? Parce que et Joseph et Marie, c'était des hommes. Ils avaient la faiblesse de la chair. Ils avaient aussi besoin du salut. Ils avaient aussi besoin d'être sauvés. Même les frères de Jésus n'ont pas cru en lui. Mais j'aime bien les livres de ces frères de Jésus. Hein, de ces frères de Jésus. Je vais d'abord lire ça avant de voir leur comportement après. Hein? Dans Jean chapitre 7, regardez l'attitude de ses frères quand ils ne croyaient pas encore en Jésus. On dit ceci, Jean chapitre 7, je commence au verset 3. Et ses frères, on dit... Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi, même au monde. Regardez le verset 5, Jean 7, verset 5. « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Qui étaient ses frères? Il avait des frères et des sœurs. Parmi ses frères, il y a deux d'entre eux qui ont écrit des livres, des épîtres. Il y a Jacques, le frère de Jésus.
Et Jude.
Et Jude. Mais il avait aussi d'autres frères, Joseph. Il avait aussi des sœurs. Mais je vais lire quand même le livre de Jacques. Jacques devint une colonne après la mort de Jésus. Et ce Jacques, quand je lis le premier verset de son épître, il se dit ceci. Il écrit en disant ceci. Je lis Jacques chapitre 1. Verset 1. Jacques, virgule, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Quelle présentation! Il ne se présente pas pour dire « Moi, Jacques, petit frère propre de Jésus-Christ, qui a mangé avec Jésus. »
On a grandi ensemble.
On a grandi ensemble. Un jour même, on a dormi ensemble.
D'ailleurs, je vous annonce que quand je suis venu au monde... C'est lui qui m'a lavé.
Oui. Donc, il ne s'est pas pointé comme ça.
Donc, je ne suis pas n'importe qui.
Mais il dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'était des gens humbles. Et pour celui qui ne prêterait pas attention, il aura du mal à connaître que ce Jacques était le fils de Joseph et de Marie. Regardez un autre frère de Jésus qui a aussi écrit les épîtres.
Je vais lire. Jude, premier verset.
Oui, parce qu'il n'y a pas de chapitre là-bas.
Jude, virgule, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques.
Tu peux te limiter là. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il vous dit, le Jacques là, c'est mon frère. Mais moi, je suis serviteur de Jésus-Christ. Il ne se présente pas comme, moi je suis le petit frère propre de Jésus. Moi, je mérite aussi des honneurs. Ne me voyez pas comme n'importe qui.
Mes lettres ont une plus grande importance que les autres lettres.
Voilà. Ces hommes de Dieu se sont humiliés parce qu'ils savaient qu'ils étaient des hommes. Ils voulaient que tous les hommes que nous sommes, que nous ayons nos regards fixés vers Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Ils ne voulaient pas que les hommes aient les regards tournés vers eux. Voilà pourquoi devant Dieu, ils seront honorés grandement. Comme Jean-Baptiste, il est considéré comme le plus grand de tous les hommes. Hein, parce qu'on dit de tous ceux qui sont sortis de la femme, ça c'est le témoignage de Jésus, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? La Bible dit, il n'a fait aucun miracle, Jean-Baptiste, aucun. La grandeur, ce n'est pas par le fait qu'on a fait des miracles, mais la grandeur, c'est par le fait qu'on montre Jésus-Christ qui pardonne le péché. Jésus-Christ qui ramasse celui qui quitte Jérusalem et qui descend vers Jéricho. C'est ça, ce que nous présentons, le vin. Le vin que le Samaritain a versé, c'est l'image du pardon que le Seigneur présente à tout le monde. Il peut te mettre sur la monture qu'on va aborder bientôt. Eh bien, je veux que tu crois en moi. Oui, l'Esprit nous aide à comprendre qu'il a raison. Et ensuite, il nous présente le pardon. Il dit, crois en moi. Il n'y a pas de péché grand que je ne puisse pardonner. Je pardonne tout péché. Aucun péché peut être si grand pour que le Seigneur ne puisse le pardonner. Non. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est très important. Lorsque nous réalisons l'amour de Dieu, lorsque nous réalisons ce qu'il fait, nous ne pouvons que lui dire merci. Et je vais lire un dernier verset, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, où Paul résume même l'évangile que lui a prêché, l'évangile que les autres ont prêché, que nous devons prêcher. Il dit ceci, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Quel est cet évangile? « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Vous auriez cru en vain. » C'est-à-dire, si vous, je le reprends, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Voici l'évangile. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça, c'est un. Qu'il a été enseveli. Ça, c'est deux. Qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Pour nos péchés, il a été enseveli et il est revenu à la vie pour qu'on soit juste devant lui. Il nous présente le salut. Le salut ne se trouve qu'en lui, mais il faut qu'on croie en lui, qu'on accepte son pardon. Et lorsqu'on acceptera son pardon, nous serons identiques à ces Israélites qui étaient dans des maisons. Lorsque l'ange destructeur venait, il pouvait entrer dans des maisons et tuer les premiers-nés des maisons où le sang n'était pas sur les linteaux et sur les poteaux. Mais lorsqu'il s'approchera de nos vies, le destructeur, il ne nous touchera pas parce qu'il verra le sang de l'agneau sur la porte de notre cœur. Il ne nous touchera pas. Et ainsi s'accomplit dans la vie des chrétiens ce verset qui dit « Ne touchez pas à mes oints ». Qui sont ces oints? Ce sont ceux qui ont cru en la parole comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'ils croient en lui, l'Esprit de Dieu les oint et ils reçoivent le pardon des péchés. Voilà un peu ce que je souhaiterais que ce soit pour moi, pour mon frère Raphaël et pour tous ceux qui nous suivent. Qu'ils soient vraiment les oints. Tous nous sommes oints si nous croyons au Seigneur et nous sommes justifiés à cause du pardon et à cause de son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha.
J'aimerais ajouter j'aimerais revenir un peu sur 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés,
amen,
selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. En fait, ce que Paul essaie de nous faire comprendre, ce que Paul est en train de nous dire ici, la naissance de Christ, la vie de Christ, la mort dans l'ensevelissement, sa résurrection, et je vais même aller plus loin, son départ ou son retour à la droite du Père, tout s'est fait conformément aux Écritures. Rien de ce qu'il a fait, il n'a fait en dehors des Écritures. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma sœur, je vais toujours vous encourager au travers de cette émission « Venez à Jésus » à lire les Écritures, la Bible, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21, parce que toute la Bible est christocentrique. Elle ne parle que ou elle est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des images de sacrifices. C'était l'image de ce qui devait arriver. C'était l'ombre de ce qui devait arriver. C'était une, j'allais pas dire une projection, mais c'était le miroir de ce qui devait s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés. Combien de demi-morts Jésus-Christ est en train de rencontrer sur la route, mais qui ne veulent pas de l'aide de Jésus-Christ. Il passe et il dit, je suis mort pour tes péchés. Tu n'es pas obligé de continuer à souffrir. Tu n'es pas obligé de continuer à aller en enfer, sur cette route qui te mène en enfer. Viens et monte sur ma monture, afin que tu reçoives la vie. Mon frère, ma sœur, au moment où nous sommes en train de finir cette émission d'aujourd'hui, Christ est mort pour vos péchés.
Amen.
Que vous soyez une prostituée, un homosexuel, un drogué, un alcoolique, un meurtrier, un idolâtre, un occultiste, je ne sais quoi, le pire des hommes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Christ est mort pour vos péchés.
Amen.
Lorsqu'il mourait sur la croix, je suis tenté de dire qu'il avait votre nom en tête.
Mmh.
Parce qu'il savait qu'un jour vous viendrez.
Mmh.
Et aujourd'hui est l'opportunité qu'il vous donne de vous mettre au bénéfice de son pardon. Et c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message, j'ai entendu ta voix. J'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Je crois et je confesse que Christ est mort pour moi aussi.
Amen.
Je demande pardon pour mes péchés. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je prends un nouveau départ aujourd'hui et je m'engage à marcher avec Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain, avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder.
À la fois prochaine et que Dieu vous aide à demeurer dans la parole.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.